Au cours de notre étude, je crois que nous avons déjà pu mesurer l'importance de la personne de Dieu dans ce livre de l'Ecclésiaste. Car il est impossible d'étudier dans ce livre un thème quel qu'il soit, sans rencontrer au détour du chemin le personnage de Dieu. Si nous étudions le thème de la vanité, nous rencontrons Dieu qui donne à l'homme cette vie de vanité, Dieu qui fixe à l'homme son travail, Dieu qui fixe à l'homme cette tâche de la sagesse. Si nous étudions le thème du temps, nous rencontrons Dieu qui fixe les événements de la vie de l'homme et Dieu qui fixe la fin de la vie de l'homme qui rappelle à lui l'esprit qu'il a donné. Et si nous parlons du bonheur, nous sommes en face de Dieu qui donne à l'homme le bonheur et la joie dans la vie. Ces aperçus nous laissent donc comprendre, nous laissent donc entrevoir l'importance du personnage dans le livre et l'utilité qu'il y a de l'étudier pour lui-même. Voici quelques constatations. D'abord, l'Ecclésiaste parle de Dieu. Je viens de le dire, mais c'est la constatation fondamentale, il en parle, et il en parle beaucoup. Si l'on fait le compte du nombre de fois où l'Ecclésiaste emploie le mot Dieu, on arrive à un total d'environ 40, ce qui est un total supérieur au mot vanité. Lorsqu'on lit l'Ecclésiaste, on a l'impression qu'on est submergé par la vanité, et pourtant l'Ecclésiaste parle plus de Dieu que de la vanité. Cela est étonnant que l'Ecclésiaste parle tellement de Dieu, car son sujet, ce n'est pas Dieu, son sujet, c'est l'homme. L'Ecclésiaste a fixé les limites de son investigation à ce qui se passe sous le soleil, et il se contente de donner ses propres impressions. Il dit « j'ai vu, j'ai compris, j'ai dit ». Nulle part, il ne dit « Dieu ». M'a révélé, Dieu a dit, Dieu m'a fait comprendre. L'Ecclésiaste se situe au niveau de l'expérience ordinaire de l'homme. Et pourtant, il ne peut pas écrire un seul chapitre de son livre sans mentionner le nom de Dieu. Cela revient à dire que l'on ne peut parler de l'homme, même sous le soleil, sans parler de Dieu. Notre livre comprend la situation de l'homme comme créature de Dieu, d'une manière très forte. Même au ras du sol, même au niveau de l'expérience commune, on ne peut pas faire abstraction de Dieu. Et même si Qohélète, nous allons le voir, fait abstraction de la révélation de Dieu à son peuple d'Israël, s'il fait abstraction de la révélation spéciale de Dieu envers le peuple qu'il a choisi et qu'il a sauvé, il ne fait pas abstraction de la révélation générale de Dieu, qui est le créateur du monde et le créateur de l'homme. Ainsi, l'expérience de l'homme se situe toujours devant Dieu, non pas dans le vide, non pas devant lui-même, mais devant Dieu. Il est difficile de déterminer quel est le but précis de l'auteur et à qui s'adresse son écrit. Est-ce qu'il s'adresse à ses concitoyens, à ses co-religionnaires pour dissiper leurs illusions? Ou est-ce qu'il s'adresse aux païens pour les amener par ce moyen à la connaissance du Dieu d'Israël? Il est difficile de répondre à cette question. Mais lorsque l'on considère la date de l'écrit, surtout si l'on rapporte l'écrit à Salomon, on peut constater que cette époque de Salomon, qui est une époque d'ouverture d'Israël à la sagesse cosmopolite de l'Ancien Orient, une époque où la sagesse d'Israël elle-même a rayonné d'une manière unique dans l'histoire sur les peuples environnants. On venait de loin pour entendre Salomon, pour lui poser des questions et pour écouter ses réponses. Une époque comme celle-là convient tout à fait à un livre comme celui de l'Ecclésiaste. Car, voyez-vous, lorsque l'on compare les livres de la Bible aux livres qui ont été écrits à peu près à la même époque chez les peuples voisins, c'est par ces ouvrages de sagesse que l'Ancien Testament ressemble le plus aux écrits des peuples voisins. Et il le fait, je dirais, sur un fond commun de sagesse créationnelle qui fait que tous les hommes participent dans une certaine mesure, et avec leurs faiblesses et avec leurs erreurs, bien sûr, mais participent à une certaine connaissance du monde, de l'homme et de Dieu. Le livre des Proverbes, quant à lui, qui est un autre livre de sagesse, envisage d'une manière très positive ce rapport entre la sagesse et la crainte de Dieu. Mais non pas sans avoir posé au départ comme fondement la crainte de l'Éternel et le commencement de la sagesse. Le livre de l'Ecclésiaste, lui, est beaucoup plus critique à l'égard de la sagesse. Et il semble que l'ouverture, le rayonnement d'Israël parmi les peuples voisins n'ait pas seulement été positif, mais qu'il ait conduit à des compromis. Et Salomon lui-même est le premier à avoir succombé à l'attrait de la sagesse des peuples voisins. Colette part de l'échec de la sagesse, des limites de la sagesse. Et il arrive, chose curieuse, à une conclusion qui est absolument identique au présupposé du livre des Proverbes, la crainte de l'Éternel. Crains Dieu. Le livre des Proverbes commence par dire la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, c'est-à-dire craindre Dieu, ça ouvre toutes les portes de la connaissance de l'homme et de la connaissance du monde. Coëlette, au contraire, dans le livre de Coëlette, au contraire, c'est des imperfections, à partir des imperfections, à partir des limites de la sagesse, que l'auteur, c'est le même auteur, tire la conclusion de la crainte de Dieu. Nous avons ainsi deux approches complémentaires des rapports entre la sagesse et la crainte de Dieu. Coëlette est donc une sorte de livre charnière, en tout cas un livre qui pose, qui permet de poser les rapports entre sagesse et crainte de Dieu. D'où l'intérêt de ce document pour nous, car c'est aussi notre problème. Si nous ne voulons pas vivre d'une manière tout à fait séparée et distincte de la sagesse humaine, ou séparée dans notre vie deux domaines absolument distincts, ce que nous savons et ce que nous croyons, et dire que le domaine du savoir, de la science, c'est le domaine du diable, et que seul le domaine de la foi et le domaine de Dieu, ce serait une infidélité par rapport à Dieu qui a créé le monde et qui nous a créés. Il n'est pas seulement un Dieu qui intervient comme sauveur dans notre vie, mais un Dieu qui est intervenu déjà comme créateur de nous-mêmes et du monde dans lequel nous trouvons, ce monde que la science essaye de connaître avec ses limites. Et il nous faut aussi prendre garde à ces rapports si nous ne voulons pas, d'un autre côté, tomber dans les pièges que nous tend la connaissance humaine. Coëlette est une sorte de livre de dialogue, en tout cas un livre de mise au point, sous l'autorité du Dieu créateur et juge. Ce qui nous laisserait supposer que, dans le dialogue avec des non-croyants, nous pouvons peut-être dans un premier temps faire abstraction de l'œuvre de Dieu comme sauveur, c'est en tout cas ce que fait Coëlette, nous allons le voir, mais qu'il est toujours impossible d'établir un dialogue sans référence à Dieu comme créateur et comme maître du monde. C'est l'exemple que nous donne l'apôtre Paul lorsqu'il s'adresse aux païens. La première chose qu'il pose, c'est Dieu comme créateur. Seconde remarque. Dieu dans le livre est toujours désigné sous le nom d'Élohim, jamais sous le nom de Yahvé. C'est-à-dire qu'en français, dans la traduction seconde, vous ne trouverez jamais le nom l'Éternel pour désigner Dieu dans le livre de l'Ecclésiaste, ou dans une traduction comme la traduction œcuménique, la Tob, vous ne trouverez pas le mot le Seigneur en majuscule. C'est un phénomène qui est très rare dans l'Ancien Testament. Seul le livre d'Esther se trouve dans la même situation, et même une situation plus caractéristique encore, puisque le livre ne mentionne pas du tout le nom de Dieu, ni Yahvé, ni Elohim. Dans le Cantique des Cantiques, il n'y a pas Yahvé, mais il y a Yah, qui est une abréviation de Yahvé, alors c'est pour cela que je ne mentionne pas le Cantique des Cantiques. Quelle est la différence entre ces deux noms, Yahvé et Elohim ? Elohim est en quelque sorte le nom générique de Dieu, le nom qui indique sa nature et sa fonction. Dieu est Dieu, comme je suis un homme. Yahvé, c'est son nom personnel. Dieu est Yahvé, comme je suis Émile Nicole. C'est son nom d'alliance. Ce nom Yahvé n'a jamais d'article, jamais de suffixe possessif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, et on ne trouve jamais l'expression « mon Yahvé, ton Yahvé » comme « mon Dieu et ton Dieu ». Il n'est jamais employé pour une autre personne que Dieu, que le Dieu vivant, le Dieu d'Israël. Alors que le nom Dieu peut être employé dans d'autres cas, on peut parler des faux dieux, on peut parler des dieux étrangers, qui ne sont pas des dieux, bien sûr, qui n'existent pas. Mais on ne parle jamais de faux Yahvé, ou d'autres Yahvé. Le nom Yahvé, chaque fois qu'il est employé, désigne toujours le Dieu vivant, le Dieu d'Israël. Et c'est le nom avec lequel Dieu fait alliance avec son peuple. Et la prière d'Israël, le schéma, le rappelle, Éternel, notre Dieu, est, ou l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel seul. C'est le nom. La révélation de ce nom coïncide avec les actes rédempteurs de Dieu. Dieu révèle ce nom à Moïse au moment où il va faire sortir son peuple du pays d'Égypte. Bien sûr, il n'y a pas une dualité, j'espère que vous l'aurez compris, entre Yahvé et Elohim, c'est une seule et même personne. Et le récit de la création dans le livre au début de la Genèse nous le fait bien comprendre, puisqu'il dit que c'est Yahvé Elohim, l'éternel Dieu, qui a fait les cieux et la terre. Il n'y a pas deux dieux différents, un dieu général et un dieu particulier. Le dieu particulier d'Israël, c'est le dieu créateur et souverain. Mais cette absence du nom Yahvé ne peut pas ne pas être intentionnelle. Et je crois que nous pouvons en conclure que Qohélète fait abstraction volontairement de l'œuvre rédemptrice de Dieu, du salut de Dieu. Dieu apparaît dans le livre, non pas comme sauveur, mais comme créateur et comme juge. Remarquez l'expression, chapitre 12, verset 3, « Souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta jeunesse. » Bien sûr, l'œuvre de salut n'est pas niée dans l'Ecclésiaste. Ce serait un très grave contresens que font trop d'interprètes. Il n'y a aucune négation de l'œuvre de salut de Dieu. Simplement, l'Ecclésiaste n'en parle pas. Il laisse de côté la question. Pourquoi ? Pourquoi ne parle-t-il pas de Dieu comme sauveur ? Est-ce qu'il ne croit pas en Dieu comme sauveur ? Certainement pas. Mais il n'en parle pas pour permettre un constat honnête de la situation de l'homme, non pas sans Dieu, car l'homme n'est jamais sans Dieu, mais l'homme sans salut. Il le fait pour éviter toute confusion, tout essai de récupération par l'homme de l'activité rédemptrice de Dieu au profit de son orgueil, ou de ses idoles, ou de sa sagesse. Car chaque fois que Dieu agit pour sauver, l'homme a tendance instinctive à mettre ses actes de salut sur son propre compte. Vous voyez, lorsque Paul guérit un boiteux à Lystre, les gens disent « c'est Jupiter ». À Athènes, lorsque Paul parle de Jésus et de la résurrection, les gens disent « voilà de nouvelles divinités ». Et Paul, dans les deux cas, met les choses au point en disant qu'il y a un seul Créateur dont tout dépend. Et Colélète, lui aussi, à sa manière, d'une manière différente de l'apôtre Paul, mais dans la même ligne, met aussi les choses au point. Car l'homme a toujours tendance à incorporer le salut à la description de sa condition. Et de dire, par exemple, le salut va se trouver dans le travail, dans cette possibilité qui m'est donnée d'agir, de travailler, de façonner le monde, de transmettre le résultat de mon travail aux générations qui vont suivre. Il n'y a pas de salut par le travail. Ou de dire, le salut sera dans la sagesse, dans la capacité de l'homme de réfléchir, d'essayer de circonscrire les problèmes et de proposer des solutions qui, au fur et à mesure du développement de l'histoire, pourront devenir de plus en plus satisfaisantes. Il n'y a pas de salut par la sagesse. Ou alors de proposer un salut par la spiritualité, par les exercices spirituels qui permettraient à l'homme de s'élever au-dessus de sa condition et d'atteindre un niveau supérieur, de participer à la nature de Dieu. Coëlette dit très nettement, très fermement, il n'y a pas de salut sur la terre, sous le soleil, pas de profit, pas d'avantage, tout va dans un même lieu. Ainsi, il évite toute confusion. Mais parce qu'il n'a pas nommé Dieu comme sauveur en employant ce nom de Yahvé, il laisse la porte ouverte au salut. Colette n'est pas le livre de l'absence de Dieu, car Dieu est bien là, et l'homme se trouve bien devant lui dans ce livre. Mais Colette, je crois qu'on peut le dire, est le livre de l'absence du sauveur. L'absence du Dieu qui a fait alliance avec Israël pour le sauver, l'absence du Dieu qui, en Jésus-Christ, a voulu faire une nouvelle alliance avec tous ceux qui croient en son nom. Il y a donc un certain éloignement de Dieu dans ce livre. Mais pourtant, paradoxalement, Dieu reste proche. C'est très curieux, n'est-ce pas ? Dieu est loin, mais il est quand même très proche dans la joie qu'il donne à l'homme. Et sur la bouche de l'apôtre Paul, nous retrouvons ce même mélange entre la proximité de Dieu et l'éloignement de Dieu lorsqu'il dit aux gens d'Athènes que Dieu a voulu qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant. Il semble que Dieu est très très loin de ces Athéniens et pourtant il le dit bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Il est loin parce qu'il n'est pas révélé comme sauveur, mais il est prêt parce qu'il reste quand même le Créateur qui connaît sa créature et qui en prend encore soin. Troisième constatation, le Dieu qui ressort de l'expérience de l'Ecclésiaste est un Dieu souverain. Dans tout le livre, nous trouvons cette impression très forte de l'œuvre de Dieu. C'est une expression qui revient souvent. Une œuvre qui se déroule du commencement jusqu'à la fin. Chapitre 3, verset 11. L'homme ne peut pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. L'homme ne peut pas la saisir, mais pourtant cette œuvre doit être l'objet de son attention. Chapitre 7, verset 13. Regarde l'œuvre de Dieu. Chapitre 8, verset 17. J'ai vu toute l'œuvre de Dieu. J'ai vu que l'homme ne peut pas trouver tout ce qui se fait sous le soleil. Et chapitre 11, verset 5. Colette montre, affirme que cette œuvre englobe tout. Tu ne peux, connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dieu qui fait tout. Est-ce que ce n'est pas un peu dangereux de la part de Coëlette de dire cela, alors qu'il vient de souligner et qu'il souligne tout au long de son livre les choses surprenantes, déconcertantes, révoltantes, les injustices, les anomalies, tout ce qui révolte la pensée de l'homme. N'est-il pas imprudent de sa part de maintenir avec tant de force la souveraineté de Dieu? D'aller jusqu'à dire que c'est Dieu qui a fait le jour du bonheur et le jour du malheur? Et d'aller même affirmer de certaines choses déconcertantes que c'est comme si Dieu se trompait, comme une erreur de la part de celui qui gouverne. Alors ne serait-il pas plus prudent de dégager un petit peu la responsabilité de Dieu et de dire, bon, il y a beaucoup de choses qui lui échappent. Bien sûr, Coëlette prend soin de préciser que Dieu n'est pas responsable directement du mal qui se commet. Dieu n'est pas responsable de l'échec de l'homme. Tout ce que fait Dieu est bien. Tout ce qu'il fait est juste. Chapitre 3, verset 11. Dieu a fait toute chose belle en son temps. Verset 14. Ce que Dieu fait durera toujours. Il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher. Et surtout au chapitre 7, au verset 29. Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Donc Dieu n'est pas responsable, directement responsable des mauvaises actions qui se commettent. Elles sont commises contre sa volonté, en révolte contre lui. Et la preuve qu'il n'est absolument pas solidaire du mal, c'est qu'il s'en désolidarisera d'une manière définitive par le jugement, qui montre bien que le mal qui a été fait n'a rien à voir avec lui, mais qu'il est au contraire la négation de sa volonté et de sa souveraineté. Cependant, ce monde qui va mal, qui va si mal, reste soumis à la juridiction suprême de Dieu. Et l'homme n'est pas sous le soleil de Satan, car ce n'est pas Satan qui a fait le soleil, c'est Dieu. Et le Dieu dont parle l'Ecclésiaste n'est pas un Dieu qui constate simplement les dégâts, avec tristesse, en disant « oui, c'est dommage, mais je n'y peux rien ». Non, c'est un Dieu qui agit. Qui agit même si son action paraît surprenante, déconcertante pour l'homme. Et elle est déconcertante. Car il semble bien que un grand nombre de choses qui accablent l'homme soient intentionnelles de la part de Dieu. Voyez par exemple au chapitre 1er, au verset 13, déjà, c'est une occupation pénible, désagréable, à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. Et c'est repris d'ailleurs au chapitre 3 et au verset 10. Et dans le verset suivant, nous voyons que Dieu met dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, donc il lui donne l'intuition d'une durée qui dépasse la durée de sa vie, de quelque chose d'autre. Seulement, l'homme ne peut pas découvrir ce que fait Dieu du commencement jusqu'à la fin. Chapitre 7, verset 14, la fin du verset, « Dieu a fait l'un comme l'autre, c'est-à-dire le jour du bonheur et le jour du malheur, afin que l'homme ne puisse en rien découvrir ce qui sera après lui. » Donc, on est en présence d'une volonté de Dieu de limiter l'homme, de le plonger dans l'incertitude et dans l'insatisfaction. Et l'on retrouve cette volonté au chapitre 3. On la trouve aussi au chapitre 3 et au verset 18, où c'est à cause de la méchanceté de l'homme que Dieu les éprouve. Que Dieu l'éprouve pour que les hommes voient qu'ils ne sont que des bêtes. Donc ce n'est pas du tout par hasard que l'homme se trouve dans une situation si décevante et si déconcertante. Cela correspond à une intention précise de la part de Dieu. Et remarquez que cette intention est notée aussi dans un autre passage, chapitre 7, je crois, et au verset 13, où Dieu est décrit comme quelqu'un qui courbe. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Bien sûr, il ne s'agit pas ici du mal. Si Qohélète dit que Dieu courbe, ça ne veut pas dire qu'il fasse le mal. Mais ça signifie que Dieu brise les espoirs, brise les ambitions de l'homme. Et l'homme ne peut pas contester. Chapitre 6, verset 10. Celui qui est homme ne peut pas contester avec un plus fort que lui. Donc l'homme n'échappe pas à Dieu. Bien au contraire, il se trouve pris dans les mailles du filet. Ce refus en face du mal de mettre en cause la souveraineté de Dieu ou de la limiter est caractéristique de tout l'Ancien Testament et même du Nouveau. Voyez le personnage de Job, un juste qui souffre. C'est le scandale. Un scandale qui porte atteinte à Dieu lui-même. Car si Job est bien juste et si Job souffre, ce que dit le livre. On est placé devant ce dilemme, soit Dieu n'est pas juste, Dieu fait tout, mais alors ce qu'il fait n'est pas juste. Soit Dieu est juste, mais alors il n'est pas tout puissant, il ne fait pas tout, il ne contrôle pas tout, il y a des choses qui échappent à sa juridiction et à sa volonté. Et voyez-vous le personnage de Job, dans sa détresse profonde, il préfère mettre en cause la justice de Dieu que sa souveraineté. Et je trouve qu'il y a là une intuition remarquable. Il préfère dire à Dieu, ce n'est pas juste. Il préfère protester, bien imprudemment bien sûr, de son innocence. Il préfère prétendre aller défendre sa cause devant le Créateur de l'univers que de conclure, Dieu n'y peut rien. Mon cas lui échappe. Il n'y a rien à faire. Et chez Qohélète, nous trouvons exactement la même rigueur. Devant les énigmes de la condition humaine, il n'adopte pas la solution facile que, je dirais, trop souvent nous adoptons en disant Dieu n'est pas responsable. Mais il pousse la hardiesse jusqu'à dire, parce que je crois que c'est un peu le sens de son livre et de ses réflexions sur Dieu, Dieu le fait exprès. Et en cela, il suit tout à fait la ligne de l'Écriture, la ligne tracée par le début de la Genèse, où Dieu inflige à l'homme un travail pénible, où il y annonce que ses affections seront déçues, où il place devant lui la perspective de la mort. qui marque l'échec de sa folle entreprise, devenir comme Dieu. Voilà la condition de l'homme, décrite par Coëlette, expliquée par la Genèse. Ce qui est déconcertant, évidemment, chez Coëlette, c'est l'absence d'explication. Mais le livre ne se trouve pas seul, il est encadré par toute l'écriture qui donne l'explication. Et le seul chemin que Coëlette ouvre, c'est celui de la crainte de Dieu. Et remarquez comment dans le livre, la crainte de Dieu et le jugement sont en post-scriptum. Non pas à l'intérieur de ce cercle, une sorte de cercle vicieux de la vanité, qui commence par la vanité et qui finit par la vanité, mais qu'à l'extérieur de ce cercle, il y a l'affirmation fondamentale, crains Dieu. Alors bien sûr, cette porte de sortie n'est pas la grande porte ouverte à deux battants, c'est une toute petite porte, un soupirail, et l'homme doit se faire tout petit pour passer, crains Dieu. Mais n'est-ce pas ce que dit aussi Jésus ? Étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie éternelle, et il y en a peu qui les trouvent. Ainsi, lorsque nous réfléchissons à ce que dit Coëlette sur Dieu, nous avons dans son livre une remarquable description de son activité, de l'activité de Dieu, abstraction faite de son activité de sauveur. Premièrement, Dieu continue à gouverner le monde. Dieu continue à diriger les événements et les personnes. Le monde n'est pas laissé au hasard ou au libre jeu de la volonté mauvaise de l'homme. Bien sûr, cette volonté se manifeste, cette volonté mauvaise de l'homme, elle se manifeste, mais elle n'est pas dernière. Dieu continue à gouverner le monde. Deuxièmement, Dieu exerce à l'égard du monde et à l'égard de l'homme une pression qui limite intentionnellement la réalisation de ses ambitions. Vous voyez comme Dieu dit à propos d'Adam et Ève, empêchons-les d'approcher du chemin de l'arbre de vie. Dieu limite la réalisation des ambitions humaines et l'épanouissement de ses expériences, c'est ce qu'il fera aussi lors de la construction de la tour de Babel. Ainsi, le désordre, l'absence de sens, ne sont pas du tout une preuve de l'impuissance de Dieu ou de son manque d'intérêt pour la condition de l'homme, mais ça correspond à une intention. Laquelle ? Coëlette ne le dit pas nettement. Il parle simplement de la crainte. Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Mais le reste de l'Écriture nous révèle cette intention, qui est celle du salut. Et troisièmement, malgré cela, l'homme, Dieu ne cesse pas de témoigner à l'homme sa bonté. Providentiellement, il permet à l'homme de jouir quand même de l'existence, d'en jouir modestement, d'une manière tout à fait inattendue. Alors que les choses vont si mal, alors que les relations entre le Créateur et la créature sont tellement perturbées, Dieu continue à prendre soin de sa créature. Non seulement il la maintient en vie, ce qui est déjà extraordinaire, puisqu'une sentence de mort a été prononcée contre elle, mais même il lui permet de jouir de cette vie. Alors nous avons ici une description tout à fait remarquable de l'œuvre de Dieu dans le monde. Je répète, il faut bien le préciser, indépendamment de son œuvre de salut. Mais cette description correspond tout à fait à la fois à ce qui nous est dit dans la Genèse sur l'origine de la condition de l'homme et ce qui nous est dit dans le reste de l'Écriture sur l'œuvre de salut de Dieu. Et le livre de Coëlette s'adapte à la fois à cette explication de la condition humaine dans le livre de la Genèse et à l'annonce du salut dans toute la Bible. Car voyez-vous, nous avons dit premièrement que Dieu maintient les conditions extérieures de l'existence humaine. Parce que Dieu continue à diriger le monde, il maintient en place les structures. Et Timothée dit que ce sont Paul à Timothée dit que ce sont ces structures qui permettent proclamation de l'Évangile. Nous devons adresser des prières à Dieu en faveur des autorités, en faveur des rois, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, car cela est agréable à Dieu, notre Sauveur. Donc, si Dieu laisse ou permet, malgré toutes les imperfections de ces structures, leur permet de subsister, c'est pour que l'annonce du salut puisse retentir. Nous avons noté deuxièmement qu'il y a une pression exercée de la part de Dieu sur l'homme pour limiter ses ambitions. Et cette pression a pour but de l'amener à la repentance et au salut. Et si nous allons beaucoup plus profond, nous pouvons constater que c'est en subissant la condition de l'homme pécheur, dont la marque suprême est la mort, que Dieu nous a acquis le salut par Jésus-Christ. Et troisièmement, la joie c'est un signe de la grâce de Dieu. Car tout en imposant à l'homme des conditions d'existence que l'on pourrait qualifier de vexatoires, Dieu lui laisse entendre que son intention est différente, que c'est une intention d'amour. Et l'apôtre Paul s'en fait écho lorsqu'il dit: ne vois-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Alors moi, il me semble que l'Ecclésiaste est fait sur mesure pour préparer l'annonce de l'œuvre de rédemption en Jésus-Christ. Nous avons là un schéma remarquable pour comprendre la condition humaine, qui peut nous servir d'abord à nous-mêmes, car même en tant que chrétiens, nous ne sommes pas à l'abri des contresens, surtout dans l'environnement qui est le nôtre, et où l'on envisage toujours la condition, et où l'on envisage souvent la condition de l'homme sans référence à Dieu, qui pourtant est son créateur. Et d'autre part, cela peut nous aider aussi dans nos contacts avec les non-croyants, en évitant peut-être deux erreurs, l'une d'elles qui serait le manque de courage pour affirmer le jugement de Dieu et pour rendre témoignage à cette souveraineté de Dieu sur le monde. Ne soyons pas des témoins à responsabilité limitée, d'un Dieu à responsabilité limitée. Et d'autre part, nous garder aussi d'un certain manque de sensibilité qui pourrait nous rendre tout à fait insensibles à la notion de bonheur que peuvent connaître les hommes qui ne connaissent pas Dieu. Paul fait appel justement à cette expérience commune du bonheur pour inviter les païens à la repentance. La condition humaine qui est décrite dans l'Ecclésiaste, c'est la condition de l'homme sans sauveur. La vie en Christ qui nous est offerte, qui nous est donnée par la foi si nous la saisissons, c'est une vie bien sûr qui est en contraste avec celle que décrit Coëlette. Nous avons parlé d'énigmes, mais notre vie ne doit pas être pour les autres une énigme, mais au contraire une lettre de Christ qui peut être vue et lue de tous les hommes. Nous avons parlé de vanité, mais nous sommes encouragés à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Nous avons parlé du temps, et nous sommes invités à travailler, à semer pour la vie éternelle. Nous avons parlé du bonheur. Mais le bonheur de la vie avec Christ, c'est de pouvoir se réjouir. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. D'avoir sa joie en Christ. D'avoir la joie de le connaître. La joie de l'aimer, la joie de le servir. Nous avons parlé de Dieu, qui dans l'Ecclésiaste est un personnage assez distant malgré sa proximité. Mais en Jésus-Christ, nous pouvons appeler Dieu notre Père. Et nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous disons non seulement Dieu, mais nous lui disons notre Père. Je ne sais pas quelle impression vous a faite l'Ecclésiaste. Je pense que les impressions sont certainement diverses et variées. Si nous faisions un sondage, je pense que nous aurions des réponses très différentes les unes des autres. Peut-être certains ont-ils été intéressés, intrigués, je ne sais pas. Mais alors, si l'Ecclésiaste vous a intéressé, ne restez pas en chemin. Et allez jusqu'au bout, parce que l'Ecclésiaste, lui, ne va pas jusqu'au bout. Il s'arrête en chemin pour nous conduire à quelqu'un d'autre, pour nous conduire à Christ. Peut-être d'autres ont été déçus, inquiets, troublés, peut-être même effrayés. L'Ecclésiaste, s'il vous effraie pour vous conduire à Christ. Et si dans le Nouveau Testament nous lisons que Jésus-Christ est le bon berger, nous pourrions peut-être dire que l'Ecclésiaste est le chien de garde. Un chien qui aboie autour des brebis, qui leur montre les fausses pistes, ou du moins qui les met en garde contre l'égarement. Il aboie pour les ramener. Et la voix du chien n'est pas une voix spécialement agréable pour les brebis. Mais cette voix les repousse vers le bon berger qui a donné sa vie pour elles. Le chien ressemble un peu au loup, c'est vrai, mais il n'est pas le loup. Il n'est pas le loup qui ravit et qui disperse, qui dévore les brebis, qui les égare loin du berger. Et il n'est pas le loup parce que il obéit au berger. Et l'Ecclésiaste, lui aussi, bien qu'il aboie, et bien qu'il morde peut-être parfois, le fait selon les instructions qu'il a reçues du Saint-Esprit et pour nous conduire à Jésus-Christ. Durant cette semaine, j'ai probablement beaucoup aboyé avec l'Ecclésiaste. Monsieur Racine vous a parlé. Mais nous sommes tous les deux les serviteurs du même maître. Et ce qui compte, c'est que vous entendiez la voix du bon berger qui vous invite, qui nous invite à le suivre. Reconnaître la voix du bon berger, c'est reconnaître Jésus-Christ comme son sauveur, comme son Seigneur, croire qu'il est mort pour nous et vivre chaque jour de sa grâce. Si nous restons dans les images pastorales, le Seigneur nous envoie aussi comme des brebis au milieu des loups. Et notre situation, il est vrai, est précaire. Et votre situation dans le milieu universitaire est certainement comparable à celle des brebis au milieu des loups. Et c'est étonnant que Dieu envoie, que le Seigneur envoie ainsi des brebis. Et Dieu envoie des brebis. Il n'envoie pas les grands loups avec leurs grosses pattes et leurs grandes gueules. Il envoie des brebis. Et c'est la manifestation de sa souveraineté, la nature de son autorité sur le monde. Et même si cela nous semble un risque énorme, nous pouvons et nous devons nous confier dans sa parole. Il nous dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Vous serez secoués, criblés. Mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu et notre Père. Nous te remercions parce que tu as vaincu le monde et parce que tu nous appelles à ta suite pour le vaincre, non pas par la force, ni la force physique, ni la force des raisonnements, mais par l'obéissance à ta voix. Les brebis entendent ta voix et te suivent. Et la grâce que je te demande et que nous demandons ensemble à toi, c'est que tu nous gardes auprès du bon berger, ou que tu nous amènes ou ramènes si nous sommes égarés auprès du bon berger que nous pouvons suivre chaque jour. Le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis, qui connaît ses brebis et le connaissent, et dont il a dit lui-même, nul ne les ravira de sa main. Merci Seigneur pour ces promesses, et qu'elles ne nous conduisent pas à la facilité ou à la négligence, mais au contraire à une vie confiante, responsable, à ton service et dans la dépendance de ton esprit. Amen.